tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Mordren.
Salut.
Et de B2G.
Salut.
ATH aurait dû être parmi nous cette semaine, mais il se trouve qu'il a eu un petit souci de réveil matin. Et comme il était un peu défoncé avant que l'on commence cette émission, nous avons commencé sans lui. Voilà, ATH, réveille-toi bien, tout ça, passe un bon week-end. Donc, dernière émission de l'année, cette semaine, je le rappelle, pas la peine de revenir la semaine prochaine pour écouter le podcast, c'est la dernière émission de l'année, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes, tout ça. Et donc, au sommaire de l'actualité, cette semaine, nous vous parlerons de plusieurs sorties de portages de jeux japonais sur PC. On enchaînera ensuite sur Ni no Kuni 2 et Final Fantasy VII, encore eux, car on a eu de nouvelles infos cette semaine. On parlera également, exceptionnellement, de la Nintendo NX et des brevets qui ont été déposés. Vous savez, d'habitude, on parle pas trop des rumeurs comme ça, mais on s'est dit que là, en l'occurrence, ça pourrait être intéressant, n'est-ce pas ? On enchaînera sur Love Awesome Game Done Quick 2016. Et oui, on s'y prend à l'avance parce que il se trouve que quand ça va commencer, le podcast n'aura toujours pas repris. Et donc, il faut vous rappeler qu'il faut surtout aller voir cet événement, n'est-ce pas? Et enfin, pour terminer, B2G, un conte de Noël. Je ménage le suspense, je n'en dis pas plus, mais tu nous préciseras ça tout à l'heure.
Ça marche.
Allez, c'est parti. On commence avec la sortie surprise de Guilty Gear Xrd sur PC. Et oui, il est sorti là le 10 décembre comme ça. T'as Arc System Works qui a dit « Alors oui, salut, on a plein de jeux à sortir là, on vous sort tout notre catalogue, et en plus, voilà, Guilty Gear Xrd. » What? Et le jeu est dans le top des ventes Steam actuellement. Et voilà, ça fait partie de ces sorties qui font plaisir, parce que moi, personnellement, c'est un jeu que j'attendais très fortement sur PC. Donc je vais craquer, je le sais déjà, je me suis promis de pas craquer, mais je vais craquer malheureusement, parce que celui-là, il vaut le coup. Donc je rappelle, Guilty Gear Xrd, c'est le dernier opus de la franchise Guilty Gear, donc qui est un jeu de baston. Je suis pas spécialiste des jeux de combat, hein, donc je le dis tout de suite, je vais être très honnête avec vous, très factuel. Ce qui m'a toujours attiré dans Guilty Gear, c'est la direction artistique, enfin c'est le rendu des combats, le truc très péchu, etc., bref. Donc j'ai envie de dire, le PC, what else, voilà, plus besoin d'avoir de console pour avoir les portages de jeux japonais, et ça c'est formidable.
Faut quand même s'acheter un gros stick arcade hein, pour jouer à ça, le mettre sur le bureau ou je ne sais où.
Alors moi tu sais c'est très bizarre les sticks arcade, enfin c'était parce que l'arcade j'en ai fait pas mal, et pour moi ça a été toujours associé à la console en fait, parce que pour moi l'arcade c'était Sega si tu veux.
Ouais.
Et en fait, les salles d'arcade, j'en ai pas tellement fréquenté que ça, et il faut savoir que moi, j'ai vraiment du mal avec les sticks arcade, en fait. Tu mets un stick arcade entre les mains, bon, je sais, c'est un sacrilège pour certains, mais moi, c'est comme certains face à un clavier et une souris, quoi. C'est-à-dire que
ouais, grave.
Je maîtrise pas du tout le truc, quoi.
C'est typiquement français, je sais pas si tu vois Luffy, le champion Street Fighter 4, voilà.
Qui avait gagné
français.
Avec une manette PlayStation.
Voilà, il s'était ramené avec une petite manette PlayStation, tout le monde l'avait regardé d'un air un peu... en se disant, mais qu'est-ce qu'il vient faire
c'est
avec ça?
Ce mec.
Et il a gagné.
Donc, voilà.
Et il leur a bien fermé leur gueule.
Carrément.
Donc voilà, une sortie qui fait plaisir. Par contre, une autre sortie qui fait moins plaisir, c'est celle de Final Fantasy VI sur PC. Pourquoi? Parce que déjà, tarif Square Enix, hein, c'est plus d'une dizaine d'euros. C'est même 15, je crois.
Ah, c'est cher.
Et surtout, on se tape la version iOS. C'est-à-dire que c'est une version absolument gerbante avec, vous savez, les sprites lissés que vous avez sur émulateur quand vous mettez un filtre bien dégueulasse, là, pour... Bah, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on se tape une version où plutôt que de se casser le cul à refaire entièrement les sprites en HD, ben on a mis des sprites un peu floutés, dégueulasses, qui sont, enfin c'est pas beau quoi. Alors je sais que évidemment les jeux en 2D rendent moins bien sur des télés LCD, mais enfin c'est pas une excuse quoi. Je veux dire c'est pas non plus des sprites où il y a des animations de ouf malade dessus quoi. Je sais pas, regardez Odin Sphere, il y a beaucoup plus d'animations que ça et pourtant les mecs, enfin ça a une autre gueule quoi quand même. Pour moi c'est les portages opportunistes, on se casse pas trop le cul parce que bon de toute façon c'est FF6, les gens les achèteront quoi.
J'ai envie de dire quoi qu'il arrive, Final Fantasy, j'ai l'impression que c'est vraiment la licence où tu peux faire ça, enfin où ils se permettent de faire ça tout le temps en fait. Ils le ressortent sur 3DS, enfin sur DS, ils le ressortent sur iOS, sur machin, et à chaque fois c'est pris fort. À chaque fois, c'est toujours le prix plus élevé que la moyenne de la plateforme, et à chaque fois, les gens achètent, quoi. Donc, après, j'ai envie de dire, pourquoi ils se feraient chier? Si les consommateurs achètent à partir de ce moment-là, à quoi ça sert de sortir les doigts? C'est la question que je me poserais si j'étais marketeur chez eux. Ok, bah on va leur livrer la même version crado, ils achètent, et bah tant pis pour leur gueule. Hein.
Ouais, alors je suis d'accord et pas d'accord, on a quand même beaucoup de fans de la licence. Alors on est souvent les rétro gamers, ils vont se jeter sur les vieilles versions pour voilà, où on va retrouver justement le côté old school. Là, si j'achète FF6 sur PC, bah je suis d'accord avec Tyran, j'aimerais quand même avoir une version plus jolie que ce qui existait avant, surtout que je l'ai certainement déjà. Hein. Donc oui. C'est mon cas, hein, je l'ai sur de vieilles versions. Là, de racheter une version qui est moche, bah ça m'intéresse pas.
C'est le problème de ça, ouais.
Alors je précise, pour le moment, il n'y a pas encore de prix affiché sur Steam, mais pourquoi je dis qu'il sera à 15€? Parce que le 5 est à 15€, voilà. Pour ceux qui se poseraient la question, oui Tyran, tu racontes n'importe quoi, il n'y a pas de prix. Oui, mais le 5 est vendu à 15€, donc sauf
et
changement.
Le 7 aussi, je crois d'ailleurs.
Tu vois, par contre, ça c'est le truc qui est vachement bizarre avec Square Enix. C'est que ils te sortent Final Fantasy XIII, le plus récent à ce tarif-là. Enfin, c'est très... Ouais. Enfin bref, je vous propose qu'on passe à la suite, messieurs.
Oui.
Et nous allons parler, mon cher Morren, des deux jeux qui avaient été présentés au PlayStation Experience et, ouais, et dont on a parlé, reparlé et re-reparlé la semaine dernière, à savoir Ni no Kuni 2, le magnifique,
oui,
n'est-ce pas ? Et Final Fantasy VII épisodique. Bon, je voulais en fait profiter de ça pour que, en gros, avoir aussi votre avis, hein, puisque vous n'étiez
ouais,
pas
bien
la semaine
sûr.
Dernière.
Alors Ni no Kuni, effectivement, magnifique. Après, honnêtement, moi j'ai une PS3, j'ai pas joué au Ni no Kuni 1. Hein. Mm. Il avait beau être magnifique, je l'ai pas acheté pour autant. My bad. Mais c'est vrai que quand les reviews sont sortis, ça m'a un peu refroidi en fait. Et c'est vrai que c'est magnifique, c'est ghibliesque, tout ce qu'on veut. Mais si c'est un jeu pour gamins, moi ça m'a moyennement intéressé du coup, et au final je l'ai pas acheté. Alors je sais pas si en occasion maintenant il est moins cher. Je me demande si c'est pas un jeu qui est quand même assez recherché au niveau Argus des jeux d'occasion, mais peut-être que voilà, je rattraperai cet affront, mais voilà, pour le coup, je suis pas spécialement intéressé plus que ça par Ni no Kuni 2.
B2G, toi, ça t'attire ce genre de choses, ou même pour jouer avec des enfants, par exemple, parce que je rappelle que monsieur est papa.
D'une grande tribu. Mais oui, non, j'adore. Il est magnifique. Par contre, gros regret, il sort sur DS, mais ils l'ont pas porté en France, enfin en Europe.
Oui, c'est vrai.
Je comprends pas, c'est une licence assez incroyable, ils l'auraient certainement rentabilisé. Donc du coup, ils l'ont fait sur PS3, là ils l'annoncent sur PS4, alors sur le moment, moi le 2 ça m'a fait ni chaud ni froid, et puis tout d'un coup de savoir qu'il va peut-être être porté sur d'autres plateformes, parce que j'ai pas la PS4 et je l'aurais pas. Oui, voilà, je l'entends, mais voilà, c'est pas la news sur laquelle je vais forcément me jeter ou un truc, voilà.
Oui, parce que ça c'est la news de la semaine, parce que la semaine dernière avec Ben et ATH, on se demandait. Sur le trailer, t'as toujours la mention Play First on PS4 ou ce genre de truc. Bon, ouais. Là, en l'occurrence, c'était une autre mention, je crois, mais en gros, ça laissait le doute.
Ouais, c'était console début.
Voilà.
Donc, ça veut dire que c'est la première fois que ça va sortir sur console, ça sera sur PS4. Et c'est Shuhei Yoshida qui a explicité plus tard. Ça veut dire que le jeu pourrait sortir sur d'autres consoles que la PS4 dans le futur.
Voilà. Ou si Yoshida le dit, c'est que ça doit être. C'est qu'il va très certainement sortir sur d'autres machines. Donc voilà. Par contre, un jeu pour le coup qui est très attendu, n'est-ce pas ?
Ouais.
Dont on a parlé en long, en large et en travers la semaine dernière, c'est le remake de Final Fantasy VII, mon cher Morren. On se posait plein de questions la semaine dernière et là il y a une réponse qu'on a eue, c'est enfin le format du jeu.
Le format du jeu en fait sera épisodique, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une seule ou plusieurs galettes, puisque comme c'est le cas sur les FF13 notamment, vous aurez plusieurs épisodes de Final Fantasy VII Remake, on ne sait pas combien exactement.
Mm-hmm.
Mais ça a été confirmé par Square Enix. Yoshinori Kitase s'est fendu d'une lettre ouverte aux joueurs. Yoshinori Kitase, c'est le producteur du jeu, et le producteur de l'ancien FF7, qui s'est fendu d'une lettre pour s'expliquer un petit peu, parce qu'il s'est quand même senti forcé.
Il avait un peu un flingue sur la tempe.
Voilà, c'est ça, parce que faut savoir que, bah, comme tu l'as bien dit la semaine dernière, après le PlayStation Experience, vous ne saviez pas que c'était épisodique. L'annonce a été faite après, et après cette annonce, il y a une espèce de tollé, évidemment, on connaît les joueurs. Et donc Yoshinori Kitase, c'est voilà, c'est fendu d'une lettre ouverte. Avec Final Fantasy VII Remake, nous avons l'opportunité d'aller plus loin dans l'histoire, l'expérience et le monde de FF7 de la façon dont nous l'avons rêvé, des profondeurs de Midgar aux cieux surplombant la planète. Le format en plusieurs parties nous permet d'étendre l'histoire originale afin de la transformer en une expérience épique pour les fans et les nouveaux joueurs. Donc ça, c'est le premier extrait. Voilà, je voudrais un petit peu vos réactions là-dessus. C'est-à-dire que il n'y aura pas simplement un portage pur et simple de chaque scène de FF7. Il y aura, on va dire, un univers qui est étendu par rapport au FF7 que l'on connaît.
Une réécriture, surtout.
Voilà. Une réécriture, du coup. Et une expérience épique. Moi, ça, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire, une expérience épique? Est-ce que le FF7 qu'on connaît va devenir Advent Children en jeu vidéo?
Personnellement, je parie sur un CD égale un épisode. Ça se prête bien à l'épisodique, pour le coup, parce que t'as la partie Midgar, tu vois, où là, tu peux faire un jeu totalement dédié à Midgar, puis ensuite, tu fais un jeu totalement dédié à la découverte du monde, et enfin, le dernier jeu, où t'as la dernière partie du scénario, etc., où ça s'emballe. Après, tout dépend de comment c'est fait, en fait. C'est-à-dire que, si c'est pour... on te fait genre, on va faire quelque chose de plus complet, mais en fait, t'as un jeu sur les rails... Personnellement, ça m'intéresse pas. Là, en fait, la chose qui me fait très peur, si vous voulez, c'est qu'on ait le côté linéaire d'un RPG japonais, sans ce qui permet justement d'avoir des phases de respiration dans ce type de jeu, à savoir la map monde, à savoir le Gold Saucer. Des endroits récréatifs, si tu veux, où tu délaisses complètement l'histoire, en fait, et où tu vas explorer. Tu vas t'amuser au Gold Saucer, tu vas faire des conneries, tu vas faire des courses de chocobo, des trucs comme ça. Tu vas explorer la map monde pour aller chercher telle ou telle invocation qui est planquée là, aller trouver tel ou tel boss caché, etc. Ça, c'est le RPG japonais, en fait. Le fait qu'on change le gameplay pour qu'il soit plus action, etc., moi, je m'en fous. Enfin, c'est pas un souci fondamentalement en ce qui me concerne.
C'est pas spécialement pour ça que tu joues FF7, de toute façon.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, pour le coup.
Enfin, je sais pas. Moi, pour le coup, c'est plutôt l'histoire qui m'avait marqué plutôt que le gameplay à l'époque.
C'est le classique RPG, hein. C'est quand même l'emblème des, enfin l'emblème, le jeu qui remet le plus en valeur le classique RPG, donc le tour par tour. Si tout d'un coup on tombe dans l'action RPG, voilà, on passe à autre chose. Donc ouais, je comprends que la communauté ait très peur. Hein.
Voilà. Mais du coup, l'épisodique, enfin, moi ça me fait très peur avec tout ce que ça implique en termes de narration déjà. Ouais. Parce que comme je le disais, le problème de l'épisodique, c'est que il faut que on donne envie aux gens de voir la suite. Donc, c'est une narration à base de climax. Voilà.
Et de cliffhanger, du coup.
Alors, évidemment, c'est bien qu'il y ait un autre jeu, mais il y a une différence, si tu veux, entre réécrire et refaire totalement un autre jeu, quoi.
Imagine qu'ils prennent un peu le modèle des Mass Effect. Ils l'ont découpé clairement en trois parties. Donc là, on peut imaginer trois jeux à part entière qui vont sortir vraiment un an les uns après les autres, où tu auras vraiment un jeu à part... Enfin, un univers et une profondeur de gameplay par jeu. Le deuxième va sortir, il y aura sûrement des éléments de gameplay qui vont être modifiés, ajustés ou même revus, avec encore un contenu à part entière. Donc tu auras certainement un monde ouvert par jeu, mais limité à
la zone,
à la zone voilà, traitée dans le jeu. Et là, je pense qu'on passe à la version épique, un peu à la manière Seigneur des Anneaux au cinéma. Hein. Trois films vraiment différents, mais les trois forment une histoire.
Attention, hein, je dis pas que c'est pourri et tout ça, c'est juste que moi, c'est pas... Enfin... J'attends pas ça d'un RPG japonais, si tu veux. Enfin, ce qui me déçoit avec les RPG japonais récents, c'est que je trouve que, au contraire, on a appauvri le genre. C'est-à-dire que, en gros, le genre avait ses spécificités, tu vois. Et puis, justement, avec le passage en monde ouvert, comme ça, on s'occidentalise, si tu veux.
Ah oui.
Sous couvert de la modernité, je trouve qu'on appauvrit beaucoup de choses, en fait. C'est moi, c'est ça qui me fait peur. Alors après, je dis pas que ce sera forcément comme ça, on n'en sait rien. Mais c'est ma crainte, voilà.
Bah, il y a une prise de risque en tout cas, qu'il faut la saluer parce que c'est quand même pas souvent le cas. On aurait pu trouver un remake HD basique.
Bah, après, je me demande si au final, c'est pas ça que les gens voulaient en fait. Enfin, avec l'annonce qui vient d'être faite après la PlayStation Experience, est-ce que justement les gens auraient pas simplement préféré un remake HD ?
Bah, moi, je pense que c'est ça parce que. On le sait, les joueurs, ils aiment pas le changement. pour faire simple. Oui. Pour faire très simple, très factuel, les joueurs n'aiment pas le changement. Je pense que les mecs, ils voulaient juste qu'on ait enfin une traduction potable et un jeu qui passe bien sur leur télé en HD. Tu vois, moi, je pense que c'est ça, très honnêtement. Ouais. Après, Final Fantasy VII, c'est un jeu que j'ai déjà fait. que j'ai refait, que je connais par cœur sur le bout des doigts, j'ai pas besoin de le refaire aujourd'hui en HD.
Oui.
Sauf, exceptionnellement, c'est vrai pour la traduction, mais même pour moi, si tu veux, c'est un jeu qui est très mal vieilli, je trouve, même en termes de narration.
Ouais.
Donc, je pense que c'est un jeu qui mériterait d'être écrit.
Il y a un deuxième passage dont je voulais vous parler sur cette lettre de Yoshinori Kitase. Alors, je cite, « Nous avons vu vos commentaires et réactions face aux articles reliant que Final Fantasy Remake serait un titre en plusieurs parties, et beaucoup ont correctement deviné la raison pour laquelle nous avons pris cette décision. Si nous essayions de faire tenir l'ensemble du jeu original dans une seule livraison, nous serions obligés de délaisser diverses parties et créer une version condensée de FF7. Nous savions qu'aucun d'entre vous n'aurait voulu cela. Alors, je suis d'accord, FF7, le jeu de base, effectivement, à l'époque, il est massif. C'est combien de CD? 4?
Non, c'est 3 CD, je crois.
3 CD, ah oui, c'est 4 sur FF8. Mmh. Et... effectivement, c'est massif, je me rappelle plus combien d'heures il faut. C'est genre 70 heures.
Oui, oui, c'est aux alentours, même plus. Voilà. Enfin, moi, après, honnêtement, tu me demandes ça à moi qui ai passé plus de 200 heures dessus. Donc
oui, c'est vrai que toi, t'es un peu spécial. Mais, mais effectivement, si tu portes ça comme ça sur les valeurs de production actuelles, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Je suis d'accord. Après, cet argent, tu vas le dépenser quoi qu'il arrive sur le remake. En fait, moi, je pense que ce qui les gênait, c'est surtout que ça va leur prendre un temps fou de développer l'intégralité du jeu avec des valeurs de production actuelles. Du coup, le saucissonner en 4-5 parties, ça leur assure un cash flow qui est régulier.
Bah, d'autant plus que le jeu de base était déjà saucissonné, en fait, avec les CD. Oui. Parce que, du coup, la narration était calquée sur les CD, quoi, en fait. Donc, il y a moyen. Enfin, après, c'est pour ça non plus que je veux pas être trop pessimiste, entre guillemets, en tout cas vis-à-vis de mes attentes du jeu, parce que je me dis que de toute façon le jeu à la base était saucissonné et qu'il y a moyen comme ça de faire quelque chose en épisodique qui soit bien. Après, encore une fois, le problème vient aussi du tarif, tout ça, combien on va nous faire payer. Est-ce que le contenu sera vraiment là pour chaque jeu? Ben, on aura vraiment un jeu en soi qui vaut le coup. Effectivement, ça coûte cher, etc. Mais si c'est pour faire le même jeu qu'à l'époque, sauf que je vais le payer en 3 fois, ouais, au prix fort, à un moment donné, faut pas déconner non plus. Je veux bien que les valeurs de production aient changé, tout ça, mais à ce moment-là, si elles sont trop élevées, peut-être qu'il faut revoir ses ambitions à la baisse. Enfin, je sais pas, mais moi, si tu veux, c'est me dire que je vais faire 3 jeux de 25 heures. Bon, si tu me diras, c'est toujours plus que la plupart des jeux aujourd'hui. Mais à côté de ça, il faut voir ce que propose la concurrence. Je veux dire, regarde The Witcher 3. Enfin,
c'est ça.
C'est ça le truc. Il faut le comparer, si tu veux, avec ce que propose le genre RPG aujourd'hui. Alors certes, sur le plan du RPG japonais, il est un peu tout seul, quoi. Bon, il y aura Ni no Kuni 2, ce genre de truc. Mais Square Enix est un peu le seul représentant majeur du RPG japonais aujourd'hui.
Oui.
Mais par contre, les joueurs, eux, ils feront forcément la comparaison avec les RPG occidentaux, surtout que ça va probablement être un monde ouvert, et que du coup, bah, on compare avec des gens monde ouvert, The Witcher 3, tout ça, enfin, et là, la comparaison va faire mal. En tout cas, je parle en termes de contenu à faire, quoi. C'est-à-dire que si le contenu n'est pas suffisant, les gens vont dire, mais attendez, les occidentaux y arrivent, pourquoi vous y arrivez pas?
Ouais. Moi, la question que je me pose surtout, c'est si effectivement il y a plus de map monde. A priori, s'il n'y a pas de map monde, il n'y a pas de grinding non plus. Il n'y a pas de phase de leveling.
Bah, en monde ouvert, tu peux le faire, ça.
Il y aura un monde ouvert dans FF7
Remake ? On le sait pas. On le sait pas, ouais, justement. C'est la question qu'on se pose. C'est est-ce que
d'accord,
ce sera calqué sur Final Fantasy XV, en fait, parce que pour le moment, il ressemble beaucoup à Final Fantasy XV.
Ouais.
Et Final Fantasy XV, c'est du monde ouvert.
D'accord. Parce que justement, moi, la peur que j'ai si on enlève la map monde, c'est qu'on ne la remplace par rien, en fait.
On est un jeu sur rail, en couloir.
Voilà, le couloir, c'est-à-dire que tu n'as aucune déviation entre une partie d'un joueur et la partie d'un autre. Est-ce que tu auras donc ton niveau qui est repris de l'épisode 1 à l'épisode 2, ce qui me paraît logique, mais ça serait tellement plus simple pour Square Enix de faire en sorte que tous les joueurs arrivent au même niveau à la fin de l'épisode 1. Bon, après, on sait que c'est faisable de transférer les caractéristiques, le stuff, les capacités d'un joueur d'un épisode à un autre. Après, est-ce que Square Enix va se donner les moyens de le faire ? Ça, c'est une autre question.
Je vais rajouter un point sur le sujet. Square Enix, pour Final Fantasy IV, avaient sorti des petits épisodes à la suite du jeu quand ils avaient refait, pardon, ils étaient sortis sur Super Nintendo, ils l'ont ressorti sur Wii, mm-hmm. et je crois que sur le WiiWare, uniquement au Japon, ils avaient sorti des épisodes supplémentaires. Et en France, en Europe, c'est arrivé avec Final Fantasy IV, The Complete Collection sur PSP. On avait un espèce de coffret mm-hmm. où on avait l'intégralité du jeu et des épisodes supplémentaires. Donc Square Enix avait déjà un peu abordé des sortes d'épisodes supplémentaires à des jeux FF. Mm. Enfin, au moins, hein. Bon, je pense pas que ça prendra cette forme. En tout cas, si ça prend cette forme, on se rapprochera clairement de Telltale. Hein.
Ok. Bon, messieurs, je vous propose qu'on passe à la NX. Et tu vas garder la parole, B2G, oui. puisque tu vas nous parler des différents brevets qui ont été déposés par Nintendo.
Oui, il y a eu plusieurs annonces sur les brevets cette semaine. On va les passer rapidement en revue, puisque c'est quand même un peu bouleversant, entre guillemets, dans le monde des consoles. Le premier brevet, Nintendo parle d'unité principale sur laquelle on pourra adjoindre un périphérique. Alors, ils ont un peu compliqué le vocabulaire, mais en gros, on aurait... une unité centrale sur laquelle on pourrait plugger certainement de la mémoire supplémentaire, puisque l'idée c'est d'avoir une puissance de calcul supplémentaire.
D'accord,
moi ça
d'accord.
me fait penser au PC, mais clairement il parlerait de choses évolutives. Et là où il y a un gros flou, c'est que il présente la chose en disant ça ne sera pas une console de salon, ça ne sera pas une console portable.
Mm-hmm.
Ce sera les deux. En même temps. Donc les gens se posent la question, est-ce que en version déconnectée, enfin en version portable, pardon, est-ce qu'on aura la même puissance que la version console de salon?
Ou est-ce que justement quand tu passeras en mode console de salon, tu plugeras des trucs dessus pour augmenter la puissance, etc., pour jouer à des versions différentes des jeux, enfin voilà.
Voilà, exactement. Il y a plein de solutions possibles, et puis il y avait aussi quelque chose qui avait été dit tout au début de la NX, c'était probablement full démat, des jeux complètement dématérialisés sur Nintendo. Bon, ça c'est loin d'être confirmé par Nintendo,
ça,
mais
j'y crois pas du tout, parce que honnêtement, ils ont un public très traditionnel et
oui, puis les amiibo.
Et
aussi,
oui, mais est-ce que tu n'aurais pas un périphérique qui serait disque dur ou alors lecteur pour les jeux physiques, mais pas obligatoire pour ceux qui voudraient avoir une console démat.
Enfin, mais tu vois, en fait quand tu me dis ça, j'ai l'impression qu'on parle de console Sega.
Ouais. Alors la 32X, c'est arrivé directement sur les forums que j'ai lus, directement ils ont conclu comme toi. Hein. On arrive chez Sega et on a connu le résultat.
Hein. Oui, voilà, ouais. Non mais parce que moi je me rappelle de la Saturn par exemple, tu sais, où il y avait de la RAM sur les cartouches de jeux de baston, tu vois, qui faisait que tu avais une expérience proche de l'arcade grâce à ce rajout de RAM sur les consoles. Après, Nintendo avait déjà fait ça, oui. Je crois, avec sur certains cartouches de la Super NES, la puce sur Star
la
Fox.
La N64.
Sur la N64 aussi, ouais.
La N64, t'avais carrément une RAM, je sais plus comment il s'appelait, le Jumper Pack, ou un truc comme ça, que tu rajoutais à l'intérieur. Ils avaient prévu le slot. Et oui, t'as raison, sur Super Nintendo, t'avais l'effet
comment il s'appelle,
FX. FX Effect, je crois.
Je me très honnêtement, là, les fans, ils doivent être en train de hurler, parce que je me rappelle plus du nom exact, mais, enfin, le truc qui permet d'avoir, le rendu de F-Zero, ou de Star Fox.
Je rebondis justement sur ce point-là, le côté évolutif de la console. Si on se dirige vers, la fin des consoles de salon telles qu'on les connaît, c'est intelligent de la part de Nintendo de s'y préparer. C'est-à-dire de faire de sa future console, probablement sa dernière. C'est-à-dire, le fait que, au final, 2 ans après la sortie de cette NX, tu peux rajouter quelque chose qui débloquera plus de puissance et qui te permettra de jouer au jeu de la nouvelle génération de cette console.
J'ai l'impression que tu es en train de me parler de la Steambox, en fait.
mais c'est clair. Enfin, en tout cas, ça sera intelligent.
Ça m'appelle la DS Lite, ouais. Puis l'IDS, ou je sais plus où c'était dans cet ordre-là, mais... DSi, voilà, pardon. Ensuite, il y a eu la 3DS, puis la New 3DS.
Mm-hmm.
Et à chaque fois, c'est des puissances supplémentaires ou des ajouts matériels supplémentaires. Donc là, clairement, ils sont toujours dans cette idée-là. Ils gardent ça en mémoire, ils savent que ça marche, que les gens le veulent, et les gens râlent parce qu'ils doivent tout racheter. Donc là, ils vont donner la possibilité juste de faire évoluer, de rajouter du disque dur.
Après, juste, je rappelle une chose, les gens aiment les consoles justement parce que ce ne sont pas des PC.
Oui.
Et que t'as pas à te prendre la tête à installer un truc, machin. Alors, évidemment, on peut rendre tout ça user friendly, entre guillemets.
Bien sûr.
Mais enfin, regardez la Steambox, ça marche pas plus que ça. Bon, en même temps, Valve, on va dire qu'ils ont pas trop poussé le truc. Hein, quand tu vois le tard et qu'ils proposent tout ça, c'est un peu de l'arnaque.
Ils s'en sont pas donné les moyens, je pense.
Ils sont pas du tout donné les moyens, non, ça c'est sûr. Alors moi je veux bien si tu veux, mais si tu... Le truc c'est que toutes les expériences passées que j'ai vues de consoles en kit, ça n'a jamais marché. Alors après peut-être que le marché a évolué, je n'en sais rien. Enfin, je me dis que c'est pas du tout dans les habitudes des consommateurs en fait. Le consommateur aujourd'hui, quand son téléphone marche plus, il le fait pas évoluer, hein. Il le jette, il en reprend un autre. Et enfin, j'ai pas l'impression, si tu veux, que c'est dans les mœurs comme ça de faire évoluer son matériel en fait. Pour moi, c'est quelque chose de très PCiste, si tu veux. C'est pas dans la mentalité console.
Alors ça,
quoi.
C'est des suppositions, hein. Mmh. C'est-à-dire la console qui évolue, c'est des suppositions. Mmh.
Oui,
puisque
oui, oui.
Eux, ils ont quand même dit l'idée, c'est d'avoir une console à la fois portable et à la fois de salon. Hein. C'est plutôt je commence ma partie sur la télé, je continue dans le métro, et puis le soir, quand je reviens, je rebranche tout sur ma télé et tout fonctionne. Enfin bref, comme Sony le fait avec. Je crois qu'ils le faisaient déjà avec la PS3, mm-hmm. et ils le font avec la PS4 et la Vita. Mm-hmm. Donc voilà, peut-être qu'ils essayent de gagner aussi cet aspect-là qu'ils n'avaient pas avant.
Bah, peut-être qu'ils se sont rendus compte que finalement, aujourd'hui, le segment qui leur apportait des thunes, c'était la console portable. Et du coup, le fait de fusionner les deux, ça leur faisait faire des économies d'échelle, si tu veux, et que ça leur a assuré, quoi qu'il arrive, un succès de vente, quoi, quelque part, mm. aussi.
Mais les smartphones ont fait mal aussi au marché des consoles, hein. C'est la Vita qui souffre de ça principalement, ouais. Mais
bah après moi je pense que, enfin, on dit tout le temps les smartphones, mais enfin quoi qu'il arrive, je pense qu'il y aura toujours un public de joueurs qui veut une console portable. Ouais. Et justement, enfin, à mon avis, le souci c'est que il y a pas de place du coup pour deux constructeurs de consoles portables. Et moi je pense que si Nintendo sort une nouvelle console, ça marchera, mais que ils seront sur leur machine de niche à eux en fait, tout simplement.
Ouais.
Je vais terminer sur les brevets. Il y a un autre aspect, il y a deux autres aspects, mais le premier, ça concerne toujours le matériel. Donc en gros, l'unité principale que tu auras chez toi, mm-hmm. tu auras la possibilité de mettre à disposition sa puissance de calcul pour les autres. Donc tu as ta console portable, on va dire. Tu es proche d'une personne dans un immeuble ailleurs et, où il y a des gens qui ont la NX et ils partagent la puissance de calcul. Voilà comment ils présentent les choses. Donc est-ce que ça serait pas une espèce de streaming de jeux calculé par l'unité centrale, ta NX, et t'aurais finalement qu'un support de réception quand tu es en mode nomade?
Ouais,
tu
alors
vois,
ça,
t'as ce genre de choses.
Honnêtement, moi le streaming, j'y crois pas du tout.
Ouais.
La latence, tout ça, enfin surtout sur ouais. les jeux Nintendo, enfin je sais pas, t'imagines un Mario où des fois tu dois avoir des sauts au poil de cul.
Ouais.
Si tu rajoutes de la latence là-dessus, enfin c'est juste pas possible quoi.
Enfin, si tu rajoutes après le multi, c'est mort aussi. Hein.
Voilà, enfin, c'est inenvisageable.
Enfin bon, il y a ça, et en gros, si tu mets à disposition ta console pour la communauté, t'aurais des récompenses. Alors là aussi, ça a soulevé plein de questions. Est-ce que ce sont des récompenses financières ou autres? Enfin bon, ou alors des succès, des
On
trucs
parle de
inutiles.
Nintendo quand même, rappelons-le. Hein.
Ouais, voilà, c'est pour ça.
Bon, non, je pense que t'auras un Amiibo et encore.
Ouais, le je crois que le site
des
de Nintendo,
points Nintendo.
Ouais,
à la fin
je crois que ça a fermé. Hein.
Avec.
Ça a fermé, hein, ça existe plus hein, ce site de
avec
des points pour commander des choses. Ouais, ils ont fermé il y a
Ouais, non, mais ils vont réouvrir, t'inquiète.
C'est possible.
Et donc le dernier Pokémon brevet sur le nouveau Pokémon.
Bon, le dernier brevet, ça concerne la manette. Donc là, il permettrait d'avoir un écran dans la manette. Alors, ils l'ont déjà un peu avec leur mablette, mais il y aurait l'effet 3D, enfin bref, ils ont balancé pas mal d'infos aussi dessus avec des schémas, donc.
A priori, ce serait le premier écran qui n'est pas rectangulaire, fabriqué par Sharp. Donc Sharp, c'était le fabricant de l'écran 3D sans lunettes de la 3DS. Mmh. Et donc qui a priori a fait une nouvelle percée dans ses écrans 3D. Et là, pour le coup, voilà, a priori, la manette serait ovale.
Mmh. D'accord.
Bon. Ouais, elle est assez moche sur les schémas, mais de ce côté-là, Nintendo ont quand même toujours su avoir des designs assez
oui,
assez sympas. À part la Wiimote, hein. La Wiimote qui est un peu standard, mais on va dire...
La télécommande.
Dont... Ouais, voilà.
Ouais, moi, j'aimais beaucoup la manette de la GameCube, par exemple.
Ouais, voilà. Elle est parfaite. Là, ça fait un peu penser à ça, d'ailleurs.
Oui.
Donc, on pourrait aussi avoir un lecteur de cartes. Il y aurait un haut-parleur, mais ça, les haut-parleurs sur la Wiimote, ça existait déjà. Donc, mm-hmm. Voilà. Ils ont posé un brevet, enfin, plusieurs brevets. Ce qui fait que la communauté des fans est très active en ce moment, ça dit vraiment tout et n'importe quoi.
En fait, le truc c'est que poser un brevet, ça veut pas dire forcément que tu investis dans la technologie. C'est que tu veux simplement pas que quelqu'un d'autre ait un brevet après. Enfin, avant toi. C'est juste
c'est
ça.
Moche.
Donc, ça peut être la NX comme ça peut être tout à fait autre chose. ou comme ça peut être quelque chose qui ne sortira jamais. Après, ces brevets vont quand même dans le sens de certaines rumeurs qu'on entend déjà depuis plusieurs mois, voire depuis un an. Donc, à voir. Après, moi, je trouve que ça tarde un petit peu tout ça, quand même.
Ça tarde, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la Wii U est en position latérale de sécurité depuis des mois.
Ouais, parce que tu dis ça tarde, mais je peux t'assurer que le mec qui a acheté sa Wii U, lui, il souhaite que ça soit le plus tard possible, parce que
non, mais
c'est quand
sûr.
Même un peu foutu de sa gueule, là. Mais...
Bien sûr. Mais après, enfin, je sais pas, vous avez vu des sorties d'importance, là, en novembre, sur Wii U ?
Bah, à part Xenoblade.
Xenoblade, ouais.
Voilà.
Twilight Princess, non, il est pas sorti.
On a dit des sorties d'importe.
Non mais c'est ouf. Je parlais à mon beau-frère qui a acheté une Wii U l'année dernière à son fils qui a 10 ans et il me disait je lui ai acheté FIFA 15 quoi. FIFA 15 hein. On en est au FIFA 16 sur les consoles normales. Sauf que FIFA 16 il sort pas sur Wii U. Et donc on en est là quand même. Alors oui, il y aura Star Fox qui sortira l'année prochaine, tu vois, mais je trouve que là on en est quand même à la phase où ils déposent simplement des brevets. Si c'est effectivement la NX, elle est pas sortie la NX hein.
Ouais, alors après moi je me méfie parce que c'est pas parce que tu déposes un brevet que derrière la console est pas prête, surtout qu'il y a des rumeurs qui disent que ça arriverait au premier semestre 2016.
Ouais.
Donc
c'est tôt quand
c'est
même
demain,
parce que
hein, donc voilà.
C'est tôt parce que il y a quand même leur Zelda, leur dire le jeu majeur de la Wii U qui probablement sera le plus mis en avant par Nintendo après Mario Kart, c'est vraiment le prochain Zelda, et si ils le sortent en même temps que la NX, il y a un problème hein.
Ah non, mais ils vont faire le coup de la GameCube, vous avez oublié déjà.
Grave.
Ou...
Ouais, c'est clair.
Bon, parce que moi je m'en souviens très bien, hein, mon réclame en tout cas, il s'en souvient très bien.
Tu m'étonnes.
Je rappelle hein, GameCube. Zelda annoncé, tout ça. Le jeu sort, on te le sort en très peu d'exemplaires sur GameCube, et ouais. Derrière on te sort la version Wii.
C'était d'ailleurs le fameux Twilight Princess. Hein.
Voilà.
Tout à fait.
Non mais bon, enfin bref. Messieurs, je vous propose qu'on passe à la suite.
Mmh.
On va évoquer l'Awesome Games Done Quick 2016. Et oui, on en parle déjà parce que ça nous a pas échappé. C'est le dernier podcast de l'année. Et il se trouve que l'événement prendra place à partir du 3 janvier, voilà. Donc à partir du 3 janvier, je rappelle, l'Awesome Games Done Quick, c'est un marathon de speedrunners, on récolte des fonds pour la Fondation contre le cancer, n'est-ce pas ? C'est un événement dont on ne pense que du bien ici à Game Info, en plus c'est un événement où il y a des trucs un peu foufou, parce qu'en plus des speedrunners, je rappelle, ça arrive qu'on ait des trucs genre Pokémon Play Switch, c'est-à-dire des mecs qui s'amusent à modifier une Super Nintendo pour faire des trucs sur des chats Twitch, tout ça, enfin, c'est un truc complètement fou. Bref, l'Awesome Games Done Quick 2016, c'est le marathon de l'année qu'il ne faut surtout pas rater, en tout cas si vous aimez le speedrunning, c'est absolument indispensable. En plus, il y a une super ambiance, et allez savoir, peut-être que s'il trouve un créneau sur son emploi du temps de Premier ministre, vous pourrez discuter avec Mamie Lamy, qui, je le rappelle, est là quasiment à tous les événements, que ce soit la SGDQ ou la GDQ, parce que il présente régulièrement tout ça, il a même été dans les locaux Gaming Live, enfin bref. Mamie, si tu nous écoutes, on espère que tu trouveras un petit créneau à consacrer à cet événement, n'est-ce pas?
Mamie, donc, si voilà. Tu nous écoutes, le mec a de l'espoir quand même. Hein.
Au niveau des commentateurs, il y a Mister MV qui est assez, qui est assez sympa à suivre dans ce genre d'événement.
Le pilier.
Ouais. Avec voilà. ses intros musicales adaptées à chaque événement.
Voilà. Enfin, bon. Bref, et puis bon, les speedrunners, j'ai envie de dire, c'est des fous.
Ah ouais, c'est impressionnant.
Ouf. Voilà, donc suivez-le, je rappelle, cet événement, il faut absolument le suivre, et contribuer surtout. Je rappelle qu'ils font des superbes t-shirts, limite c'est pour ça que j'attends l'événement, tu vois.
Ouais.
c'est le mec qui à chaque fois qu'il y a une AGDQ ou une SGDQ qui achète plein de t-shirts, tu vois, pour refaire sa garde-robe en fait. Parce que les t-shirts, ils sont absolument sensationnels, en plus ils coûtent pas cher en général. La version d'été, là, ils ont finalement réussi à dépasser le million de dollars. D'habitude, c'est réservé à la version divers, ce genre de score. Et donc là, on s'attend à battre tous les records cette année. Donc, allez-y, donnez, c'est pour le cancer. Voilà.
Enfin, c'est contre le cancer.
C'est pour le cancer.
Plutôt. Enfin, pour la lutte contre le cancer.
Voilà.
Voilà. On a perdu le tyran, ça y est. Ah, il nous en fait une à chaque podcast maintenant. C'est la fin d'année.
Hein. Ah, il est
la
temps.
Fatigue, excusez-moi, la fatigue.
Il est temps de partir en vacances.
Ah oui, là, il est temps que je me casse. J'en peux plus, là. Bon, allez, on va terminer sur un conte de Noël, mon cher B2G.
Ouais, un petit conte de Noël.
Sur Binding of Isaac, Afterbirth.
Alors une petite histoire, je vais resituer très rapidement le jeu parce que je veux pas parler pendant des heures de ça, mais Binding of Isaac, un jeu indépendant, énormément vendu, le concept était simple, hein, c'était une sorte de parodie de Zelda, c'est-à-dire on enchaînait les salles, quand on rentre dans une salle, toutes les portes se ferment, donc la salle fait la taille d'un écran à la base, toutes les portes se ferment, il faut tuer tous les ennemis de l'écran pour pouvoir ensuite accéder aux salles suivantes. Donc Edmund Macmillan, la Team Meat, ceux qui avaient réalisé Super Meat Boy, accessoirement qui était une parodie de Super Mario Bros. Donc voilà, voilà le jeu Binding of Isaac. Binding of Isaac, le premier, donc la version vanilla, était fait dans un moteur Flash assez dégueulasse, mais avait quand même su fédérer énormément autour du jeu, puisque le jeu a une sacrée profondeur. Enfin moi j'y ai énormément joué. Il est vraiment très 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 intéressant et ils ont voulu sortir une version un peu plus poussée. Ils ont voulu refaire le moteur tout en rajoutant des items, en rajoutant des combos entre les items, enfin bref, en améliorant au maximum le jeu. Donc ils ont fait une version qui s'appelle Afterbirth. Donc Afterbirth, c'est Placenta en anglais. L'univers est très très glauque, hein. Je sais pas si vous y avez joué. C'est des deals avec le démon, enfin avec le diable. C'est du sang à tour de bras. Enfin,
idée bien ennemi. Crade. Si.
Voilà, c'est très très crade, très malsain. Bah l'histoire, hein, Binding of Isaac, c'est la ligature d'Isaac, donc c'est l'histoire d'Isaac dans la Bible. Donc c'est sa mère qui entend Dieu. Pardon, c'est son père qui entend Dieu et qui lui dit « Je vais te mettre à l'épreuve, pour ça il va falloir tuer ton fils. » Et le père d'Isaac va pour
non,
tuer
c'est
Isaac.
C'est la mère, je crois. Hein.
C'est la mère. Alors dans le jeu, c'est la mère, mais je sais pas si c'est dans la Bible, c'est vraiment la mère.
Oui, enfin, dans la Bible, c'est son père.
Dans la Bible, il me semble que c'est le père qui l'amène, qui va le tuer, et puis Dieu l'arrête en disant « C'est bon, tu as la foi, ne le fais pas. » Alors que dans le jeu, là, c'est la mère qui essaye de le tuer, et Isaac arrive à partir et va dans les sous-sols de la maison, et puis plus ça va, plus on avance loin, 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 dans les profondeurs. Bref. Voilà le contexte, et il se trouve que quand Afterbirth est sorti, l'équipe avait mis en place plein de mystères et d'énigmes pour débloquer un personnage qui s'appelle The Lost. Et il se trouve que 109 heures après la sortie du jeu, les data miners ont complètement pété le code et ont balancé tout ce qu'ils avaient trouvé sur le jeu. C'est-à-dire comment débloquer The Lost. Alors c'était très compliqué, hein. Fallait que Isaac meure contre tel ennemi dans tel niveau, ensuite prendre le personnage Magdalene, de la suicider avec ses propres bombes dans tel niveau, ensuite fallait prendre Judas qui devait mourir contre The Mom, donc, la mère, pour ensuite enchaîner une partie avec Azazel qui devait mourir après avoir battu la deuxième transformation du diable.
D'accord, très bien.
Bref.
Pas du tout compliqué.
Et tout ça, et tout ça en une fois. Hein, c'est-à-dire, si tu meurs pas correctement avec un perso, faut recommencer de zéro avec le premier perso. Enfin, bref.
Ouais. Fallait vouloir.
Et alors, il y avait plein d'énigmes, il y avait tout un jeu dans les trinkets, on avait une page de d'avis de recherche sur le personnage The Lost. Enfin, bref, Edmund McMillan et ses équipes avaient fait un truc assez incroyable. Et quand ça a été cassé en, en 109 heures, ils ont été déçus vraiment très profondément. Tyrone, un des développeurs, avait fait une déclaration, il avait dit... les data miners ont avalé un steak de $100 en une seule bouchée. C'était pour donner un peu l'idée du truc. Macmillan, lui, par contre, avait sorti des flots d'insultes incroyables et il avait terminé en disant que c'était tellement décourageant que qu'il savait plus trop ce qu'il allait faire par la suite. Donc limite, je me retire du jeu vidéo. Donc tout le monde avait eu un peu peur.
Ouais, enfin là, c'est un peu.
Ouais,
enfin, c'est des crises d'un dé très particulières quand même. Hein, des fois.
Voilà, c'était un peu particulier. Et donc. Et donc pour alors pardon c'était pour Rebirth et donc il sort le DLC Afterbirth et là Macmillan a protégé tous les secrets possibles et imaginables et il se trouve que quand le jeu est sorti alors il y avait des nouveaux modes etc il y a une machine de dons qui est apparue on pouvait donner des pièces et puis la machine de dons s'est bloquée à 109 pièces donc là les gens commençaient à se dire tiens 109 c'est un numéro qui est assez important aux yeux de d'Edmund. Et puis ils n'étaient pas assez satisfaits non plus parce que dans les DLC disponibles au jour de la sortie, il manquait quand même du contenu par rapport à ce qui était annoncé. Donc là, les énigmes ont commencé à arriver un peu dans le milieu. Donc il y a eu des hypothèses, etc. Donc rien ne s'est passé jusqu'aux 109e heure de sortie du jeu où là il y a une mise à jour qui a été faite. Donc là tout le monde a dit bah ça y est. Les data miners n'auront rien pu faire avant cette 109e heure. Et puis en fait pas du tout, la mise à jour a juste changé l'icône d'un succès en mettant une nouvelle icône d'une image 109 sur 109 avec des traits, un truc un peu bizarre. Et là, c'est parti dans une suite de jeux du chat et de la souris entre justement l'équipe d'Edmund Macmillan et les joueurs. Et puis aussi tous ceux qui s'intéressent à ce genre de petits jeux.
Genre tous les fans de Valve, c'est ça?
C'est ce que j'allais dire. On est tombé dans une histoire digne de Portal. Hein. Ouais. Enfin, de Portal 2 en l'occurrence. Donc clairement, hein, l'image, il y avait un truc crypté dedans. Ça donnait un lien sur le site, un site d'hébergement. Quand tu y allais, tu voyais une image du personnage de The Lost. Donc justement, l'ancien personnage. Avec un extrait de la Bible. Avec une phrase, bref, ensuite les gens continuent à chercher, etc. Il y a des références à des films. Je vous la fais courte, hein, mais ça a terminé où on a commencé à avoir une adresse postale à Santa Cruz. Et là, on est sorti du cadre du jeu et de du chat et de la souris derrière son écran, où on est rentré dans l'alternate reality game. Et c'est ça la petite histoire. Intéressante, c'est que les gens sont sortis derrière leur PC, sont partis à cette adresse, ont trouvé sur un poteau un avis de recherche avec une photo et puis encore une fois un numéro de téléphone avec les derniers numéros qui étaient arrachés. Donc il fallait être un petit peu malin, hein, rajouter le 109 à la fin. On appelle, on tombe sur un message répondeur qui dit rien. Qui dit juste on reconnaît la voix du père d'Isaac dans le jeu, donc c'est le doubleur du père d'Isaac qui a laissé le message. Bon, rien de plus, donc encore attente, etc. Ça avance, quelques tweets plus tard, mise à jour du message téléphonique, avec un message encore obscur, et puis Macmillan, ça avançait plus trop, il était interviewé, et puis il leur a dit, bah écoutez, c'est simple, les gars, ramenez une pelle. Donc là, ramener une pelle, qu'est-ce qu'on fait avec une pelle de plus à cette adresse? Les gens trouvaient pas, encore une fois, des bonnes énigmes. Un gars a eu l'idée de prendre tous les mots du message répondeur, de prendre les premières lettres de tous ces mots, de les mettre à la suite. Et il a obtenu une info, c'était une coordonnée géographique. Alors il l'a convertie en chiffres, etc. Il est arrivé à l'adresse dite, il a commencé à creuser, et il est tombé sur une petite figurine, une petite poupée. Tagué avec plein de morceaux, des numéros, des chiffres, plein de choses dessus, et qui ont donné en fait une adresse d'un compte Twitter, et c'est le compte de Grid, c'est l'avarice un des sept péchés capitaux, donc c'est un des sous-boss du jeu Binding of Isaac. Et une fois qu'ils ont obtenu ça, ils ont commencé à faire parler le fameux compte Twitter qui a mis à jour enfin la dernière mise à jour possible en débloquant les contenus manquants dans la DLC Afterbirth. Donc dans cette petite histoire, on a Edmund Macmillan qui avait fait un travail titanesque dans le premier Binding of Isaac, qui s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau puisque le code a été cassé. Et pour faire face à ça, il est rentré dans l'alternate reality game pour pouvoir protéger son secret jusqu'au bout.
Putain,
donc
j'ai
trouvé ça, ouais, c'était assez impressionnant puisque ça a duré des semaines et des semaines. Pas beaucoup de gens se sont intéressés à ça. C'est un peu comme Portal, on en a beaucoup parlé par la suite en fait.
Ouais.
Mais c'est sympa de suivre l'histoire au fur et à mesure. Et je trouve que ça manque un peu en fait. Je voulais un peu avoir votre avis sur l'alternate reality game. On a des jeux qui avaient fait un peu ça par le passé où on sortait du cadre de l'écran.
Et notamment quand c'est l'Exis numérique, je crois qu'ils faisaient beaucoup ça aussi.
Oui. C'est vrai. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, je t'avoue que je suis plutôt le mec qui va lire après coup.
Parce que moi, je vous avoue que les énigmes, ça a jamais été ma cam. Mais
j'en ai lu une pendant le truc. Je comprenais rien non plus. Enfin, aller décrypter. Les gars, ils donnent les algos de cryptage. Hein. Enfin, c'est quand même basique. Hein. C'est pas du haut niveau, mais faut avoir l'idée, faut trouver. Enfin. Mais après, quand on lit, ouais, c'est sympa.
Et en général, ce que j'aime bien dans ça, c'est que au final, c'est très communautaire comme événement, quoi. T'as des gens qui s'entraident un petit peu pour avoir des idées et tout sur les indices, et donc t'as des gens qui se déplacent évidemment, mais t'as des gens aussi qui restent chez eux, qui suivent un peu de loin et qui essayent d'aider à la résolution des énigmes. Je trouve ça assez cool. C'est vrai que ça se fait pas beaucoup parce que je pense que c'est très compliqué aussi en termes de pas d'infrastructure, mais il faut quand même planifier tout ça et que ça soit parfaitement bien fait. Parce que si c'est mal fait,
il s'est fait avoir.
Ça fonctionne pas. mais je trouve que ça dénote quand même d'une certaine profondeur dans la réflexion de, voilà, qu'est-ce que je veux faire, et tu crées quand même un voyage pour ceux qui veulent bien le faire, tu vois. Je trouve que c'est très intéressant.
Ça dénote aussi d'un certain attachement des auteurs vis-à-vis de leur jeu, en fait.
Tout à fait.
Moi, c'est surtout ça que je salue, c'est-à-dire que les mecs, ils ont pas fait juste un jeu, tu vois. Enfin, ils ont voulu proposer une expérience avec ça, quoi. Ils ont voulu proposer autre chose, et ça, c'est très intéressant.
Edmund Macmillan, il est connu pour ça, puisqu'il avait quand même sorti un blog pour son DLC Afterbirth, même pour le remake Rebirth. Il échange énormément avec la communauté, et puis ça se passe aussi beaucoup sur Reddit. Où là les gens proposaient des idées pour les nouveaux items et on sentait vraiment le lien entre les développeurs. Alors on le retrouve sur plein de jeux en early access, mais là c'est clairement pendant la création du jeu, on le donne pas, il est pas en early access, mais on va essayer de faire de notre mieux dès le début en donnant un gros contenu. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont rallongé ils annoncent plus de 100 heures de jeu pour le jeu initial. Moi, j'en ai fait 180 et avec le nouveau DLC.
Que 180.
Ouais, il y en a. Ouais, je suis un petit joueur en plus. Hein, quand je regarde d'autres gros joueurs, mais et derrière, voilà, ils en annoncent encore plus avec encore des nouveaux items, des nouveaux combos d'items. Donc, ils ont vraiment rajouté un truc assez impressionnant autour de ce jeu qui, au début, n'était qu'un petit jeu flash. Hein. C'est-à-dire, t'avais un truc un peu salement fait en plus au niveau du code. Il y avait des bugs. C'était vraiment pas ça.
Moi, c'est une des raisons, par contre, tu vois, pour laquelle je n'ai pas fait ce jeu, en fait. C'est-à-dire que du temps pour jouer, j'en ai pas beaucoup, déjà.
Oui.
Et je me dis, un jeu comme ça, auquel tu peux retourner très facilement, enfin, c'est mort. Je peux pas. C'est pas possible. Parce que, justement, tu vois, enfin, si je mets les doigts là-dedans, après, je joue à rien d'autre, quoi. Enfin, c'est fou, c'est mort.
en fait, c'est un jeu, c'est assez simple, c'est que t'as une run, tu meurs, c'est fini, tu recommences le jeu de zéro, hein. C'est un roguelike classique. Mm-hmm. Et la run, si vraiment tu la gères bien, elle fait au maximum une heure de jeu, hein. Et si t'as des bons items, tu vas très vite, hein, tu fais du rush en 20 minutes. Donc c'est quand même des petites sessions de jeu, hein.
Oui,
donc
si tu la gères mal, elle fait 20 minutes ta run, hein, c'est parfait pour moi.
Si tu la gères mal.
Oui, parce que oui, c'est des petites sessions de jeu, mais enfin, moi je vois les mecs qui jouent à jeu, ils sont tellement accros que c'est pas des petites sessions de jeu, hein, c'est ils meurent et recommencent, tu vois.
C'est ce qui s'est passé pour moi, évidemment, mais il est très profond, il est quand même assez agréable. Et voilà, il y a tout ce qui va autour, je voulais saluer quand même ces petites histoires autour du jeu, et je trouve que ça en manque, en fait. Je trouve qu'on en manque dans le jeu vidéo.
Bon, écoutez messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine.
Yes.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Ah bah non, enfin, l'année prochaine.
Oh là, et quand je vous dis qu'il faut vraiment qu'on arrête là.
Quand je, Il est au bout du rouleau, notre tyran là.
Ah là, enfin, vous imaginez pas le boulot en ce moment, c'est... Et le week-end, j'arrive, je suis sur les rotules, là. Donc bon, on vous donne donc rendez-vous en début d'année prochaine. Alors, j'ai pas encore déterminé quand on allait recommencer. Probablement quand j'en aurai envie. Quand j'aurai envie de me retaper du montage, on va dire. Voilà, comme ça, quand je me serai bien reposé. Donc, rendez-vous en début d'année prochaine. Profitez bien des fêtes. Bonne année, bonne santé, voilà, joyeux Noël, bye bye à tous.
Plein de cadeaux, et allez voir Star Wars 7. Salut tout le monde.
Et n'oubliez pas la Awesome Game de Quick 2016, allez, ciao. Merry Christmas. Someone who wants you dead. Know when you're sleeping and I know when you wake. Got a sock full of holes and I'm hiding under your bed. Got some cookies, got some milk. Got my shotgun trained on the chimney. You stole my woman and all I want for Christmas is to kick your ass. All I want for Christmas is to kick your ass. White bit blood satin suit, looking down on me from your sleigh. All I wanted was my blue-eyed baby with a sack in his grin. He winked and they rode away. Got some cookies, got some milk. Got my pit bones into the chimney. He stole my